Avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode, j'ai une confession à vous faire. Ce podcast que j'aime tant ne m'appartient pas vraiment. Si je pose ma voix, recherche des invités, enregistre et monte à des heures improbables de la nuit parfois, ça reste le projet d'Allah. C'est sa volonté, son décret. Je travaille pour lui et grâce à lui. Alhamdoulilah. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que j'ai réalisé il y a peu que je ne devais m'approprier ni le succès du podcast, ni ses réalités. Aujourd'hui, j'assume le fait de vous solliciter parce que je sais que nous avons tous à y gagner. Nous avons tous l'opportunité d'œuvrer pour ce beau projet et Inch'Allah en récolter les fruits ici-bas et dans l'au-delà. J'ai officiellement ouvert un Patreon pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de m'aider à le financer. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Patreon, c'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu, et notamment les podcasteurs comme moi, à pouvoir vivre de leur activité, mais surtout à la développer. Le principe est de souscrire à une offre mensuelle que vous pouvez résilier à tout moment. Grâce à une contribution de 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire. Il sera plus court, plus chill, autant dans le ton que dans le montage, mais sera toujours animé avec la volonté d'avoir quelque chose à vous apporter, Inch'Allah. Mais au-delà de cet épisode supplémentaire, contribuer à financer le podcast, c'est aider considérablement cette émission à perdurer. Vous contribuez à un changement énorme de mentalité qui doit s'inscrire dans la durée si on souhaite y arriver, Inch'Allah. Réapprendre à s'aimer à Allah, Inch'Allah, pour l'éternité, ça prendra des années. Et sans sa volonté, sans vos devoirs illimités et sans un soutien financier, cette initiative ne saurait perdurer. Je vous mets le lien pour vous abonner dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre écoute, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de compter votre gentillesse, vos prières et vos dons dans votre balance de bonnes actions, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté et laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute.
Parfois, même si on veut se marier avec quelqu'un voilà, qui nous plaît physiquement, ou par exemple sa classe sociale, elle nous plaît parce qu'il a de l'argent, et puis en fait vous avez rien à vous dire parce que le mec est clairement à droite et toi à gauche, ça passe pas quoi, ça n'ira pas plus loin. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais après je suis quelqu'un aussi, je vais pas m'assimiler quoi. C'est-à-dire que je respecte, je vais cuisiner les mêmes plats, je vais porter certaines robes, certains voilà. Mais dans ma vie de tous les jours, je reste française. Je ne suis pas marocaine, je ne serai jamais marocaine. Même si demain je fais des papiers, je serai toujours française hein, finalement.
Je regardais le monde beaucoup avec ma double culture, alors qu'en fait je devrais regarder le monde bien plus avec ma foi.
Il faut aussi se rappeler d'une chose qui est très 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 importante. En islam, on n'a pas le droit d'être nationaliste, d'être tribaliste. Donc il faut faire aussi attention, il faut le rappeler aussi. Et même en tant que converti, hein, évidemment, et on est tous à la même échelle. Il ne faut pas se croire meilleur parce qu'on vient de tel ou tel pays ou région.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Mixer signifie mélanger. Mais finalement, à bien y penser, existe-t-il une seule union sur Terre où le mélange n'est pas nécessaire? Perrine est mariée avec Nourdine depuis plusieurs années. Lorsque je l'ai rencontrée, j'étais convaincue qu'elle aurait beaucoup de choses à m'apporter sur ce sujet, qu'il y aurait beaucoup de points sur lesquels elle pourrait nous éclairer. Alhamdoulilah, je ne m'étais pas trompée. Durant notre conversation, nous avons exploré de nombreuses questions. Comment la mixité se vit au quotidien? Quelles sont les difficultés à anticiper? Elle est où la différence? Dans les petits riens du quotidien qui font tout, ou dans les grands moments de vie qui chamboulent tout? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit préserver son identité dans un mariage où le plus important, c'est notre religiosité? Cet enregistrement est spécial pour moi car Perrine et moi venons du même endroit, le nord-est de la France. Notre Oumma, communauté en français, est magnifique parce qu'elle est riche de culture, d'histoire, de prénoms, tous différents, mais avant tout musulmans. Puisse Allah nous aider à nous connaître, à nous aimer en son nom, sans jamais oublier de nous diriger vers une seule et même direction. Amin. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de ma conversation avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Perrine, comment vas-tu?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, ça va très bien, alhamdoulilah. Et toi, Madina?
Je vais bien, merci beaucoup de te demander, je vais très bien. Je suis contente de pouvoir enfin enregistrer avec toi parce que on en a eu des occasions, mais ça s'était jamais vraiment concrétisé. Et je suis contente aussi d'enregistrer avec toi parce qu'il faut que je te le dise, notre sujet de discussion d'aujourd'hui a amené des discussions avec mon mari, puisque on est toutes les deux concernées par le sujet. Et Inch'Allah, je prendrai peut-être le temps d'en parler avec les auditeurs aussi pour partager tout ça. Mais je suis très heureuse de parler avec toi d'un sujet qui peut sembler presque banal en France, tant c'est une réalité qu'on voit partout, mais qui pour certaines personnes reste encore un sujet qui pose des questions, des doutes. Et bah aujourd'hui, on va parler de la mixité au sein des couples musulmans. Et moi, je vais être très honnête, quand on m'a présenté mon mari qui n'est pas de la même origine que moi, je pensais être très ouverte sur le sujet de la mixité, et en fait, pas du tout. Je me suis découvert une peur de l'autre, une peur de me mélanger, etc. Qui m'a fait peur du coup. Mais alhamdoulilah, on a réussi à surmonter tout ça. Mais je pense que cet épisode qu'on va enregistrer aujourd'hui, c'est presque l'épisode que j'aurais aimé écouter avant de me marier, avant justement que, enfin, au moment où toutes ces peurs m'ont assaillie, parce que toi, tu es mariée depuis plus longtemps que moi, et je suis certaine que tu pourras nous expliquer un petit peu comment justement faire face à ce genre de peur, comment perdurer. Si tu veux, on peut commencer par. En fait, moi, la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé l'interview, c'est de me dire, mais en fait, Perrine, la première mixité que toi t'as vécue, avant même de la vivre avec ton époux, c'est une mixité culturelle et culturelle, parce que toi tu es convertie. Et on peut déjà commencer par là, en fait. Comment t'as réussi à gérer cette mixité-là, et comment ça s'est passé pour toi?
Ben c'est vrai que en fait finalement toutes les deux c'est différent parce que j'imagine que vous deux vous êtes musulmans de naissance.
Non, pas du tout. Mon mari est
Non.
converti.
Ah bah tu vois forcément. Je me suis trompée. Et c'est vrai que du coup, il y a ça aussi qui diffère aussi, parce que tu as couple mixte, mais qui sont tous les deux musulmans de naissance, et tu as couple mixte où tu en as une qui, on va dire, est vierge de culture finalement. Donc moi, en l'occurrence, parce que c'est vrai que, après, je sais pas si toutes les converties françaises pourraient dire ça, je sais pas. Mais en fait, nous, on est un peu déculturés, si tu veux, les converties. Parce que quand tu rencontres l'islam, si tu essayes vraiment, si t'as, alhamdoulilah, si t'as de la chance de vraiment couper tout, plus faire Noël, voilà, plus écouter de musique, tu vas juste garder la cuisine finalement française et bon quelques autres quand même, mais c'est vrai que au niveau par exemple des traditions, vraiment du culture à proprement parler, nous on est un peu plus effacés finalement. Française, je parle, comparée à quelqu'un qui a une culture marocaine, algérienne ou autre, c'est pas pareil. Donc déjà, oui, c'est vrai que moi, déjà quand je me suis convertie, déjà la nourriture, elle change. C'était les premières choses qu'on s'interdit, hein, qui sont faciles, qui sont plutôt connues, on va dire. Voilà, donc t'arrêtes de manger du porc, tu bois pas d'alcool, parce que chez nous, les Français, c'est très 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 fréquent, même chez les femmes, hein. Après c'est aussi la façon de s'habiller, on va être beaucoup plus pudique, même si voilà maintenant c'est tout le monde qui s'habille en France en tout cas voilà on est enfin voilà il y a des personnes qui sont musulmanes et qui sont pas pudiques hein, voilà il y a des en fait on se reprogramme finalement, on se dit ah tiens ça j'ai plus le droit par rapport à l'islam hein, pas de la culture de mon mari hein, je parle bien qu'on s'entende bien. Ça, j'ai plus le droit. Ça, j'ai plus le droit. Et alhamdoulilah, Allah m'a facilité beaucoup de choses. Il m'a facilité l'arrêt de beaucoup de choses. Même si encore aujourd'hui, comme toute musulmane, j'aimerais faire plus. Mais c'est vrai que c'est difficile sur certaines choses.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, je remercierai jamais Allah. Il m'a facilité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà, arrêter de boire, arrêter de faire la fête. Enfin, fête en famille, parce que c'est vrai que ça, c'est difficile. Nous, quasiment toutes les fêtes qu'il y a, les repas en famille, il y a toujours une raison, derrière, que ce soit païen ou religieux. Il y a toujours, voilà, Noël, Pâques, je sais pas, Halloween, la Chandeleur, tout finalement. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt difficile pour la famille. Comprendre. Après, quand on explique un petit peu et qu'ils sont assez ouverts d'esprit, ça va. Mais voilà, alhamdoulilah, j'ai de la chance parce que nous, depuis tout petit, Noël, par exemple, c'est quelque chose d'ancré en nous, quoi. C'est une
Ah, bien
grosse,
sûr.
grosse période. On a toujours, bah là, les cadeaux et tout. C'est quelque chose qui nous marque. Vous savez, c'est un peu comme la rentrée des classes. Je sais pas si ça te le fait, toi, encore à ton âge, je sais pas. Mais moi, à chaque rentrée, j'ai encore un petit, si c'est un truc, ah, c'est renouveau, j'ai trop envie de m'acheter des cahiers et d'aller à l'école alors
Ouais,
que
c'est vrai. Alors qu'on
je
n'y est
n'y
plus
ai
a
plus.
priori, mais c'est
Voilà, et
vrai.
du coup, c'est vrai que je pense que ça fait ça à beaucoup de convertis. Quand on approche Noël, au début du mois, on a toujours un petit truc comme ça de se dire, ah, c'est une période normalement, j'aime bien. Et là, voilà, on essaye de voilà, faire abstraction de ça et de plus, voilà, de plus y penser, de plus le faire et tout. Mais voilà, alhamdoulilah, moi, j'ai été beaucoup facilitée par Allah. Il a quand même, il m'a beaucoup aidé à enlever ça de mon cœur et tout, et de me dire, ben voilà, c'est comme ça, j'ai d'autres fêtes, je me rattraperai sur d'autres fêtes, donc les deux Aïd, Inch'Allah. Et voilà, le Ramadan aussi, qui est une très grande période, très longue, qui est quand même, c'est pas une fête, mais c'est quand même quelque chose d'important, où
C'est
tout le
un
monde
événement en fait.
se rejoint, voilà, tout le monde se rejoint, on fait à manger, il y a beaucoup de prières, il y a un événement et c'est surtout le mois. Donc, c'est compensé.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Non mais c'est
Finalement,
bien
ouais,
et
mais sur les fêtes comme ça, voilà, on est récompensé sur d'autres fêtes, en fait. On compense, si tu veux. Enfin, moi, je le vis comme ça, du moins.
bah tu vois, en fait, quand tu dis ça, moi je me dis c'est dingue parce que pour faire le parallèle avec le mariage ou les unions mixtes, j'ai aussi le sentiment que tu abandonnes des choses, mais que tu es gagnant sur d'autres. Parce qu'en fait, moi c'était ça qui me faisait peur quand je suis rentrée dans une union mixte, c'est cette peur de perdre. Parce que tu perds des choses. Moi, je pense qu'il faut quand même se le dire. Il faut mettre les pieds dans le plat. En tout cas, pour ma part, surtout quand tu viens d'une culture qui est assez forte, moi, j'avais toujours l'impression que tu es un peu. Tu filtres, en fait, tu vois. Donc, forcément, tu seras moins en intensité sur certaines choses quand la personne en face de toi, bah, elle ne partage pas les mêmes codes, en fait. Donc, oui, c'est vrai, tu perds. Mais, alhamdoulilah, tu gagnes quand même d'autres choses. Et parfois, je trouve que c'est ça qui te donne le. Au-delà même de la force d'avancer, c'est ça qui te donne la joie, en fait. T'étais heureux, en fait, de cette situation. C'est pas juste, bon, bah, c'est pas grave, j'ai gagné d'autres choses. C'est vraiment, alhamdoulilah, c'est génial, ce que j'ai gagné à côté, c'est formidable.
Ouais, moi je le sens complètement remplacé. Et puis finalement, quand tu te dis que, en tant que converti, quand tu te dis que bah t'es récompensé aussi pour faire le Ramadan, pour faire certaines
Absolument.
choses, pour aller au Tarawih, pour faire l'Aïd, pour faire le mouton. En plus, enfin, même ça, par exemple, j'ai une anecdote, le mouton, moi j'aime pas ça. Chez nous, vraiment, c'est rare les fois où les personnes mangent du mouton. Ça va plus être de l'agneau, voilà. Et encore. Et dans ma famille, ils n'en mangent pas. Pourtant, on mange de la très très bonne viande parce que mon père est agriculteur, mes grands-parents sont agriculteurs, donc la viande, elle vient de chez nous, donc c'est plutôt de la bonne viande. Je vais pas me vanter ou quoi, mais c'est voilà, c'est un fait. Et c'est vrai que le mouton, c'est dur pour moi parce que faut le faire, hein, c'est quand même quelque chose de soudain quand même. Et voilà, je vois ma belle-mère, le découpe, tout machin. Bon, ça me choque pas parce que moi j'ai l'habitude, mais c'est le manger, quoi. Genre là, j'en ai plein dans le congèle, tu vois, qui date de la naissance de mes filles, qui date des aides précédents. Et moi, je le cuisine pas parce que j'aime pas ça,
Ouais, c'est ça. Mais c'est
vois.
en fait, j'aimerais juste rebondir sur le fait que tes parents sont agriculteurs et on en a pas parlé avant, mais peut-être que les gens auront reconnu l'accent. Tu viens du nord-est de la France, enfin oui, du nord-est de la France, et ton mari aussi. Et tu vois, on parle d'union mixte, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que je trouve quand même que parfois, quand tu viens de province, en France, t'as quand même finalement une culture qui est commune. Et ça, on
Et
oublie
c'est
parfois de
très
le dire.
important. Ouais.
Ouais.
C'est très important parce que tu sais, même si on me demandait, bah, par exemple, bon, on ne doit pas le dire, mais si tu devais recommencer ou quoi que ce soit, moi je pense, parce que même si non, mon mari, il est pas, on n'est pas de la même origine, bon, lui il est né en France, il a été à l'école en France, déjà c'est une chose. C'est pas voilà, quelqu'un qui a été élevé au Maroc, qui a grandi au Maroc, c'est déjà très différent. Et en plus, on vient de la même. Comment on appelle ça mince.
Classe sociale?
Voilà, c'est ça. C'est la même classe sociale, c'est-à-dire que sa maman était une travailleuse, on va dire pauvre, et eux déjà au Maroc viennent de familles d'agriculteurs et d'éleveurs et de mince, ils ont des champs, tout ça. Enfin voilà,
Ah,
agriculteurs.
subhanallah,
Donc
oui,
moi
bien sûr.
Et donc, franchement, moi, c'est quelque chose qui a énormément pesé dans la balance parce que finalement, on a les mêmes codes, on aime la nature tous les deux, on n'a pas peur des bêtes, on n'a pas peur, voilà, je me vois pas, je me serais pas vue avec quelqu'un de la ville, quelqu'un qui, voilà, qui
Même
habite
s'il
tout
était
près.
finalement français comme toi, avec deux
Ouais,
parents, en tout cas qui sont
ça
nés en
n'aurait pas,
France.
je sais pas, franchement, ou qu'il avait de l'argent, qu'il était un peu plus riche, parce que bah, c'est des choses finalement qu'on recherche chez l'autre. Enfin, après, je pense pas que c'est universel, hein. Il y a peut-être des gens qui voilà viennent de la campagne et qui veulent se mettre, voilà, ou, enfin là, c'est un métier, parce qu'on peut venir de la campagne et pas être agriculteur, hein. Mais là, c'est vraiment, moi, je viens de la campagne, mes parents étaient agriculteurs, enfin, mon père est agriculteur, il a une ferme, mes frères sont dedans. Les parents de ma mère ont une ferme aussi, et finalement j'ai des cousins, c'est pareil. Voilà, c'est très très cutéreux comme on dit, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça. Et finalement, c'est un monde à part. Et que quelqu'un ne peut pas toujours comprendre de, voilà, tous les jours on se lève, on part pas en vacances, parce que bah, voilà, on a des responsabilités, on a des animaux à nourrir, et puis c'est beaucoup beaucoup de travail. Il y a l'amour du travail, l'amour de la terre, et en fait, quand j'ai vu ça chez sa maman, par exemple, bah, c'est quelque chose. Bah, je me suis attachée direct parce que tu te projettes, en fait. Et ça passe au-delà de la culture, même si nos deux cultures sont complètement différentes. Hein. Français, marocain, on peut pas dire que ça se ressemble quand même.
Ouais, bien
Et
sûr. Mais c'est super beau en fait, parce que moi je me dis, tu vois, je t'entends parler, je me dis vraiment, subhanallah, Allah, il est magnifique, parce que, encore une fois, on abandonne quelque chose, mais Allah, il nous donne quelque chose de bien plus fort à côté. Et ça, c'est quand même les signes et la preuve que Allah, il est capable de trouver dans le Nord-Est une femme, un homme qui vont se retrouver, alors que de base on peut se dire quand même assez différents, je suis pas sûre que ça va aller ensemble. Et non, là il va réussir à trouver des points communs qui vont faire que vous vouliez. Moi, si je prends mon cas, mon mari il est originaire de l'Amérique latine, donc un peu loin par rapport à moi. Moi, en plus, il est né en Amérique latine, d'accord?
Ah
Donc,
oui,
c'est
d'accord.
pas. Voilà, il est né en Amérique latine. Moi, je suis née en France avec une double culture, donc je me disais. Mais c'est trop loin, vraiment c'est trop loin. Et en fait, quand on a commencé à discuter, et puis même particulièrement dans le cadre de mon mariage, enfin les deux même, j'ai vraiment vu à quel point on se rejoignait sur des choses qui sont fondamentales, sur la manière dont tu veux cheminer avec la personne, sur l'éducation des enfants, sur l'hypersensibilité. Ça, moi, je trouve que c'est quand même des choses qui sont importantes, parce que
Ah
du coup, quand toi, tu as du mal à gérer tes émotions ou à dire les choses, la personne en face, elle comprend très bien, parce que potentiellement, elle peut être amenée à faire face aux mêmes difficultés. Donc, tu vois, je suis vraiment très heureuse qu'on ait cette conversation, parce que pour moi, la mixité, et je l'ai compris après, dans le cadre de mon mariage, c'est vraiment tout ça. C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est pas juste deux cultures différentes, c'est parfois, tu peux avoir deux cultures différentes, mais le mindset, il est plus ou moins le même. Enfin, en tout cas, vous vous rattraperez sur autre chose. C'est ça que je veux dire.
Et tu sais, moi, tu parlais de sensibilité, c'est quelque chose d'hyper important parce que t'auras beau être, voilà, de la même tribu, limite, du même village ou bled, admettons, mais si toi, t'es hyper sensible et que lui, c'est pas quelque chose qui lui parle, que c'est pas de sa façon de voir les choses, tu peux souffrir vraiment dans ta vie de tous les jours, hein. Si moi, il me rassurait pas parce que je suis quelqu'un, voilà, un peu d'anxieuse, ou lui pareil, après, je pensais dans tous les couples, hein, je sais pas, mais s'il était complètement froid face à ça, je le vivrais vraiment pas bien, quoi. Et par exemple, dans ma famille, alors que c'est ma famille, ce sont mes frères, ils sont très très froids au niveau, voilà, des émotions et tout, c'est quelque chose qui bloque totalement. Et pourtant, on a élevé pareil. Mais voilà, et ben finalement, tu vois, dans la mixité, moi j'ai trouvé ça aussi. Enfin, en tout cas, avec mon mari. C'est pas quelque chose que j'aurais trouvé si je me serais mariée avec quelqu'un de mon village, tu vois.
Ouais, tu vois, alhamdoulilah. Non, c'est vraiment magnifique. Mais justement, du coup, par rapport à ton union avec Nourdine, avec ton mari, est-ce que toi, tu te projetais du coup avec. Parce que maintenant, je pense que tu es dans le mariage, tu peux pouvoir dire ça, mais oui, c'est hyper important pour moi, etc. Parce que je pense qu'en fait, ça, tu te rends compte une fois que vous traversez certaines épreuves ensemble. Mais si on reprend le début et au moment où tu te maries avec lui, je pense qu'il y a plein de questions qui demeurent. Et ma question, c'est est-ce que tu te projetais avec quelqu'un qui n'était pas de la même culture que toi, et est-ce que tu as eu des peurs qui sont liées justement à cette différence culturelle qui est quand même, comme tu le disais, très forte. La France et le Maroc, on peut pas se dire que c'est la même chose en termes de code culturel.
Bah, c'est vrai qu'au début, c'était non. Non, non, je me vois pas, machin, ça va être trop dur. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai mariée? Parce que forcément, on a tous les clichés aussi qui reviennent, bien que je sois pas raciste et tout, mais il y a toujours cette petite peur de ouais, comment je vais être traitée, etc. Et en fait, en fréquentant sa maman et tout, je me suis rendu compte que j'allais être bien traitée, déjà avec la belle-mère, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Des fois, vous savez, même dans n'importe quelle famille, on arrive et puis la belle-famille ne peuvent pas vous piffrer, et puis ça fait des histoires, etc. Que là, pas du tout. J'ai vraiment senti que c'était une femme bien, une femme très gentille. Je voulais vraiment lui ressembler sur sa gentillesse. Et comme quoi, voilà, le bon comportement, c'est hyper important. Et
C'est un beau rappel que tu fais là.
oui, non, mais c'est très, 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 très important. Le bon comportement, la gentillesse, la serviabilité, vraiment, faut pas négliger ça parce que vous savez, il y a des gens qui se convertissent pour ça. Vraiment.
Ouais,
Moi,
c'est ça, c'est ce que j'allais dire. La darwa, ça passe par là en fait, hein. Ça
Ah
passe beaucoup
oui,
par là
le
même.
comportement, c'est fou.
Absolument. Absolument.
Franchement, vous aidez quelqu'un des fois, rien que vous l'aidez une fois, vous lui souriez, vous êtes gentil toujours. Ah là là, même des fois, je croise des gens qui me disent, vous savez, j'avais une dame qui habitait dans mon immeuble, je l'aimais bien, qu'est-ce qu'elle était gentille, et nanana, ou ce couple, ou ce petit jeune-là, il m'aidait toujours à monter mes courses. C'est des trucs comme ça, les gens, ça les marque. Et des fois, même à 80 ans, ils sont limite, dans 2 semaines, ils meurent, et ben ils se convertissent avant de mourir, alhamdoulilah. Donc,
Alhamdulillah.
vraiment, bon, voilà. C'est pour ça aussi mixité, mais pas que dans le couple, aussi en France, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de mixité en France, eh ben, c'est ce genre de mixité, là, où faut en parler aussi, finalement, avec le bon comportement, on se rend compte que même si on est différent, ben, il y a des trucs, il y a des bonnes choses qui ressortent, et des deux côtés,
Subhanallah. Oui, c'est
hein.
vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et qu'est-ce qui t'a fait finalement, comment t'as fait en fait pour ne plus avoir peur? Est-ce que t'as plus eu peur parce que tu t'es dit justement sa mère est adorable, je me projette avec lui, ou c'est vraiment ça qui a fait la différence du coup?
Ouais, c'était ça, et aussi bah, beaucoup de conversations en fait sur le monde dans lequel on vit, parce que c'est vrai que moi j'avais des idées bien tranchées, je vais pas dire politique, mais parce que voilà, politique, c'est pas que je m'en fiche, je suis pas quelqu'un voilà très politologue et tout, mais ça m'intéresse. Et en fait, quand j'ai vu qu'il avait le même point de vue que moi sur la société, ça a tout changé. Ça a
Oh, mais
tout
alors là,
changé.
je suis obligée de t'arrêter là parce que ça, c'est une conversation que j'ai eue avec, avec une
Ouais.
amie que tu connais qui s'appelle Fatou, à qui on passe un
Oui.
grand salam parce qu'elle est passée sur le podcast.
Oui.
Et on se disait en fait que c'est un avis, hein. Donc je dis pas que ce que je vais dire là tout de suite, c'est une vérité absolue.
Ah,
Mais je pense que si, quand on se mariait, on réalisait à quel point on doit chercher un partenaire avec qui on partage une vision très forte sur qu'est-ce que le monde. Où va le monde et comment on va faire pour s'en protéger? Parce que on est en guerre. Hein. Iblis, il nous l'a dit. Hein. Iblis, il nous fait la guerre. Et pour moi, il faut quand même réaliser à quel point il faut trouver un partenaire de vie avec qui tu vas combattre en fait. Et il faut pas. Pour moi, en tout cas, la vision du monde, la vision de oui, la vision globale de la société, la vision société vraiment au sens presque géopolitique,
Oui.
c'est hyper important. Pour moi, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui partage ce point de vue-là, parce que ça vous rend très fort tous les deux.
Eh bien, après, voilà, comme tu dis, moi, pour notre couple à nous, pour nous, ça a pesé énormément dans la balance. Et le fait aussi qu'on puisse avoir des conversations qui durent des heures et des heures et des heures. Et ça, moi, je suis quelqu'un de très, très bavarde. Et mon mari aussi, en fait, a un petit peu à son échelle. Et
Bien
du
sûr.
coup, c'est que même aujourd'hui, après 7 ans, eh tiens, regarde, t'as vu ça? T'as vu le truc de ouf, subhanallah, et comment on va faire, et machin. Et c'est toujours de pouvoir débattre et tout ça. Et même si, par exemple, on n'aura pas les mêmes goûts au niveau des films, voilà, franchement, c'est hyper dur de se mettre d'accord. Mais par contre, je dis, tiens, regarde ce livre-là, c'est super et tout. Et puis, enfin, moi, pour moi, c'est hyper important. Et en fait, on se rend pas compte que, voilà, parfois, même si on veut se marier avec quelqu'un, voilà, qui nous plaît physiquement, ou par exemple, sa classe sociale, elle nous plaît parce qu'il a de l'argent. Et puis, en fait, vous avez rien à vous dire parce que le mec est clairement à droite et toi à gauche, par exemple. Enfin, voilà, pour dire droite et gauche en France, bah, ça passe pas, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Enfin, moi, je sais que demain, après, voilà, tout est possible, mais si jamais j'aurais dû me marier avec quelqu'un qui n'est pas du tout du même avis que moi sur le monde, juste sur le monde, juste sur le monde, voilà. Ça n'aurait pas. Non, ça marcherait pas. Tous les jours, je serais en guerre contre lui, finalement.
Oui, c'est ça en fait. Et là, enfin, là où je veux insister, c'est bien sur le fait que, pour moi en tout cas à mon échelle, mon regard sur le monde, il est intégralement lié à ma foi. C'est-à-dire que je regarde le monde avec les yeux de la foi. Et donc quelque part, il faut vraiment comprendre qu'on relie ça en fait. Cette compatibilité-là, c'est également une compatibilité religieuse. Après,
Bien
tu l'as
sûr.
très bien dit, c'était toi à ton échelle, moi c'est moi à mon échelle. Peut-être que pour d'autres personnes, ça leur parlera pas. Mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que pour le coup, toutes les deux, on s'est rejoints là-dessus. J'ai une dernière question pour toi avant, enfin, sur le côté un peu prémarital, c'est avec le recul, est-ce qu'il y a des questions où tu te dis, mince, ça quand même, j'aurais dû vérifier. Enfin, je pensais pas que le message était aussi important par rapport à ça. Si j'avais su, peut-être que. Bah, j'imagine que non, alhamdoulilah, de toute façon, c'était écrit pour vous. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, oh, ça, je l'ai trop pris à la légère et en fait, c'est pas si léger que ça.
Ben, c'était plutôt au niveau de l'éducation, enfin pas de l'éducation à proprement parler, parce que sur ça, comme on a les mêmes valeurs, voilà, comme je disais, campagne et tout, ça va. Mais c'était plutôt, puis dîne aussi, c'était plutôt au niveau culturel cette fois-ci, parce que c'est vrai que l'approche, on va dire, de l'éducation à l'occidental et l'éducation, on va dire, du Moyen-Orient, elle est pas du tout pareille, notamment. Bon, moi, après, voilà, j'ai décidé quand même d'allaiter 2 ans, de porter mes enfants dans le dos. Donc ça, c'est quand même quelque chose du Moyen-Orient, finalement, enfin, ou de l'Afrique en général. Et par contre, c'était au niveau, voilà, la présence de la grand-mère qui est extrêmement importante au Moyen-Orient. Donc, en fait, c'est la maman, en
Au
fait,
Maghreb
la
plutôt.
deuxième maman. Ouais, Maghreb, je sais pas. Ou c'est. Enfin voilà, la grand-mère en fait, elle élève l'enfant limite. Ouais, c'est ça, elle élève l'enfant pendant toute l'enfance et puis après, quand il rentre à l'école, c'est les parents qui le reprennent. Et moi, ça, c'était pas possible, quoi. Moi, c'était non, non, mon enfant, c'est mon enfant, je m'en occupe et voilà. Bon, après, c'est vrai que nous, en Occident, c'est plutôt ouais, je le biberonne, je le mets à la crèche et je retourne travailler. Donc moi, alhamdoulilah, je travaillais pas, j'ai pu m'occuper de mes enfants et les allaiter longtemps comme je les souhaitais. Et pour faire la sunna aussi, d'allaiter 2 ans.
Mais même
Mais
en vrai, si tu les emmènes à la crèche, la réalité c'est que c'est toi la mère qui va les récupérer, donc tu restes quand même dans le giron par rapport à, comme tu disais, la culture maghrébine, voire africaine au sens large du terme, où la grand-mère elle est impliquée bien plus dans l'éducation et dans la vie quotidienne de l'enfant.
ouais, c'est ça, et c'est vrai que moi, c'était quelque chose qui me choquait. Et mon mari, lui, pas du tout, quoi. Il me disait, ben non, chez nous, c'est comme ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a élevée. Y a rien. Enfin, voilà. Et moi, c'était vraiment quelque chose. Non, 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 non. C'est moi la maman. C'est moi, pas la reine. Mais voilà, c'est moi qui a
C'est toi la
le
référente
panneau.
principale, quoi. Ouais.
Voilà, c'est moi qui a le panneau maman sur ma tête. C'est pas, elle va appeler quelqu'un d'autre maman. Je vais pas accepter ça, quoi. C'est ça, oui. Je pense que j'aurais bien aimé plutôt en parler plus tôt pour être moins choquée. Ou surtout quand on est en postpartum, on est toujours drama et tout. Donc, ouais, ça, j'aurais dû plus en parler avant. Mais bon, au final, voilà, c'est passé et puis on accepte. Et en fait, on se rend compte après, avec le recul, que des fois, c'est un bienfait aussi, quoi, parce que on aime bien d'avoir de l'aide. Parce que moi, je suis loin de ma maman quand même. Donc voilà, donc c'est surtout ces petits hics là au niveau des enfants, personnellement, mais c'est vrai qu'après au niveau du couple, dans la vie de tous les jours, j'ai pas ressenti de grosses voilà, différences, parce que bon, comme je te disais, nous c'est quand chez nous c'est encore traditionnel en fait chez les éleveurs et les agriculteurs où voilà, la femme elle s'occupe des enfants, elle fait le ménage, elle va à la traite. Et le mari, bah, comme il travaille énormément, bah, à la maison, il fait rien. Parce que, bah, il travaille énormément. Il part à 5 heures, il rentre à 7 heures et parfois plus. Donc, forcément, c'est pas lui qui va faire les lessives, il va repasser les culottes, quoi. Donc, finalement, mon mari, pareil, était pas trop dépaysagé, finalement,
Et
au
toi
niveau
non
de
plus,
ça.
en fait.
Non, non, parce que chez nous, c'est comme ça aussi. Voilà.
Alors, si on revient juste sur la partie par rapport à l'éducation des enfants. Comment t'as fait justement pour sortir de ça? Parce qu'aujourd'hui, t'as l'air très apaisé sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a aidé? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vivent encore ça et qui pour qui c'est difficile en fait de dire. Mais j'ai l'impression que parce que moi parfois, tu me diras ce que t'en penses. Mais parfois j'ai l'impression que parce que justement vous avez été déculturé de par l'arrivée d'un nouveau culte dans votre vie, les femmes françaises musulmanes, on a tendance à vous alpaguer, à vous intégrer dans une nouvelle culture. Alors qu'en fait, finalement, vous êtes déculturé pour vous culturaliser, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas si c'est très français de dire ça,
Non,
mais.
mais moi je vois tout à fait ce que tu parles. Et alors après, c'est pas toutes les familles qui vont vous forcer, voilà, quand tu
Non,
vois
non,
que.
et puis je dis pas forcé, hein, mais c'est vraiment ce truc de, un peu
Oui.
t'aspirer, tu vois, un
Ouais,
truc presque
ben,
naturel.
après, c'est vrai qu'on me disait du coup avec Fatou, on en avait déjà parlé de ça. Et c'est vrai que certaines sœurs, apparemment, elles plongent vraiment tête baissée dans la culture de leur mari. Moi, un petit peu quand même, parce que ben, je respecte la culture, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Mais après, je suis quelqu'un aussi, je vais pas m'assimiler, quoi. C'est-à-dire que je respecte, je vais cuisiner les mêmes plats, je vais porter certaines robes, certains voilà, mais dans ma vie de tous les jours, je reste française. Je ne suis pas marocaine, je ne serai jamais marocaine, même si demain je fais des papiers, je serai toujours française, hein, finalement. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils disent, ah, mais t'es fière d'être française, c'est pas une question de fierté, c'est juste que on
C'est
ne
une
prend pas.
réalité.
Ouais, voilà, c'est vrai, tu vois. Moi, je serai toujours, j'aurai toujours mon caractère, je ne serai jamais de la même façon. Non, mais enfin, caractère, je parle pas un mauvais caractère, je parle ma française, quoi.
Oui, bien
Même
sûr.
si je les respecte énormément, j'aime beaucoup ce peuple, j'admire beaucoup de trucs chez eux, mais je suis française. Et c'est vrai que. Des fois, ça peut choquer certaines personnes et ils vont se dire, ah bah non, moi ça y est, je suis algérienne, moi ça y est, machin. Ou même, par exemple, quand je suis allée dans la famille de mon mari au Maroc, ils s'attendaient à, je sais pas, avoir une bande de yeux bleus, j'en sais rien. En fait, ils ont vu, j'étais habillée comme eux, je mangeais comme eux, je priais comme eux. En fait, pareil, quoi. Ils se sont dit ça, c'était assez marrant comme commentaire. Mais
Ouais.
voilà, après, d'aspect, on pourrait dire, ah bah oui, enfin.
C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est la première couche qui est visible. On va se dire, bah oui, mais même dans. Visiblement, tu peux te dire, bon, ben, j'ai été assimilée. Dans le cœur, tu es musulmane, mais dans tes codes, et dans ton. Pas dans ton ADN, mais en tout cas dans la définition de ce que tu es, bah, tu es française de la même manière que moi dans la définition de ce que je suis, bah, je suis franco-sénégalaise. Après, encore une fois, avec le mariage, j'ai appris à reconfigurer certaines choses qui prenaient, je pense, trop de place dans ma vie. Ma double culture, je pense, je lisais beaucoup de. Je regardais le monde beaucoup avec ma double culture, alors qu'en fait, je devrais regarder le monde bien plus avec ma foi. Ça veut pas dire qu'on, mais ça veut pas dire qu'on nie qui on est. En fait, c'est Allah qui nous a créés comme on est, c'est Allah qui nous a fait naître dans un pays précis, avec une culture précise. Donc, ça sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. On n'est pas né dans une autre galaxie, on est né sur cette planète, avec des parents qui ont une origine particulière. Donc, faut pas le nier, mais il faut juste le remettre à sa juste place. Mais je trouve que c'est important qu'on reparle de ça, parce que parfois, en tant que. Enfin, moi, c'est ce que je vois de loin. Mais je trouve que parfois, les personnes qui sont françaises converties peuvent avoir du mal à retrouver leur place, parce que, encore une fois, vous vous êtes déculturé pour un culte et on vous dit bah maintenant que tu t'es déculturé rentre dans une nouvelle culture alors que non c'est plus compliqué que ça la vie ouais.
Bien sûr, c'est très très compliqué cette histoire d'identité finalement, parce qu'au même vous, les personnes dont les parents sont immigrés et qui ont du coup, qui sont nés en France, qui ont vécu en France, il y a un petit truc d'identité quand même qui est assez difficile, enfin qui est propre en fait à vous. Et finalement, nous, les convertis, ça fait un peu pareil, on se déculture. Puis voilà, il y a des choses au Maroc, c'est pas 100% islam, par exemple. C'est voilà, c'est des
Oui, c'est du
croyances anciennes.
culturel. Oui, ou
Voilà,
païenne.
tout à fait. Et moi,
Tout
en
à fait.
fait, je ne fais pas le culturel. Enfin, je vais le faire au niveau de voilà certaines choses, mais des choses qui, pour moi, à mon sens, enfin, à mon sens, c'est au sens des écrits finalement, bah, sont interdites parfois ou sont pas. Spécifié comme étant sunna, bah je les fais pas. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est marocain, va se dire bah elle n'est pas marocaine, c'est pour ça qu'elle le fait pas, par exemple.
Oui, bien sûr.
Et c'est, enfin voilà, c'est vrai que il y a ça aussi. C'est que moi, personnellement, j'ai pas pris 100% de toute la culture marocaine.
Et pourtant, ça se passe très bien. C'est ça
Ouais,
l'idée
il
aussi,
n'y a
c'est
pas
de
de...
dire
Bah,
ça.
après,
Oui,
moi,
c'est
j'ai la
ça.
chance aussi d'avoir une belle-mère, une belle famille où, voilà, ils sont pas nationalistes à fond, ou voilà, le fait pas, c'est tout, quoi.
Oui, ok. On te laisse aussi
Bah,
la liberté de d'être
bah
qui tu es dans ton
je pense
identité.
aussi
D'accord.
qu'ils disent, bah, elle est française, donc voilà, quoi.
Non, mais c'est bien parce qu'au final, c'est quelque chose qu'ils ont compris aussi, en fait. Parce que, encore une fois, on parlait de l'éducation, mais je crois qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question. Mais quand tu. J'ai l'impression aussi qu'au début, en tout cas, quand tu as des enfants, il y a vraiment ce truc de. Bah, nous, dans notre culture, on fait comme ça, il n'y a pas la place pour une autre manière de gérer l'enfant. Donc
Ben
vraiment.
après, c'est vrai que moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé, j'ai dit, écoutez, bah,
Voilà.
ça me gêne. Ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Ça me fait mal au cœur. Et alhamdoulilah, il n'y a pas eu de souci, j'ai pas eu d'autres trucs. Bon, après, j'avais toujours une gêne et tout ça, parce que c'est vrai que c'est toujours important, la place de la grand-mère est toujours très, très présente. Et voilà, je me suis forcée et j'ai patienté. Mais je vais quand même verbaliser. Et voilà, après, je pense qu'aussi ma belle-mère, elle a dû se dire, OK, bah, si ça lui fait du mal, je vais pas trop exagérer. Et puis voilà, mais c'est vrai que je l'ai verbalisé, j'en ai parlé avec ma belle-maman et tout. J'ai dit, bah, tu m'as dit ça, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, voilà. Et après, voilà, ça s'est calmé. Mais après, voilà, j'ai patienté aussi, puis je lui ai laissé sa place aussi, parce que le but, c'était pas non plus qu'elle soit complètement mise à l'écart, pas du tout. C'est juste que nous, on a des places bien précises, et eux aussi, finalement. Donc, c'est vrai qu'après, on essaie de trouver un équilibre, et vraiment, celles qui vivent ça en ce moment, verbalisez avec votre mari, votre belle-maman ou votre beau-papa, je sais pas, et patientez et invoquez Allah pour pas vous mettre en colère, surtout pour pas faire d'histoire et que après vos relations se dégradent.
Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis et ce qu'on comprend, c'est que ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que ça
Voilà,
passe après.
exactement,
Ok.
exactement, ça passe. Si vous verbalisez, ça va passer plus vite. Si vous verbalisez pas parce que vous osez pas et tout, ça a été mon cas pendant longtemps, ça va être plus long, mais dans ce cas, il faut patienter et surtout, faut pas se mettre en colère. Parce que ça va, si vous avez déjà une bonne relation, alhamdoulilah, faut pas la détruire. Et après, si vous n'avez pas une très bonne relation, ça arrive souvent, hein, malheureusement. Voilà, ça va empirer. Ça va empirer et puis on ne sait pas comment ça va finir, quoi.
D'accord. Et bah déjà, barakallahou fik d'avoir répondu à cette question parce que je pense que ça pourra aider de nombreuses personnes qui nous écoutent, bienvenue. Et ma question, c'est maintenant tes filles, elles sont un peu plus grandes. Est-ce que, y a d'autres défis qui sont liés à la double culture au sein d'une famille musulmane quand les enfants grandissent? Pas forcément la belle famille, hein, mais est-ce que toi, tu vois des
Oui,
choses, tu te
du
dis,
côté de
ah,
la
ça, c'est
famille,
un
oui,
gros
tout à fait.
challenge. Ah ouais,
Tout à fait.
pourquoi?
Bah, déjà, les
Ouais,
fêtes,
c'est vrai.
on va leur faire des cadeaux de Noël, c'est compliqué de refuser, de dire j'en prends pas, on va, les anniversaires, qu'est-ce qu'on me casse la tête avec ça? Et ça, c'est des deux côtés, hein.
Ouais.
Anniversaire, anniversaire, et moi, je suis là, j'essaie d'expliquer, bon, bah, tu sais, anniversaire, voilà, normalement, on les fait pas, donc, voilà, à l'Aïd, j'essaie de mettre le paquet, voilà, c'était comme ça, vraiment, je leur explique et tout, et c'est vrai qu'à l'école, ça aide pas, l'école publique, du moins, ça aide pas, donc, franchement, celles qui peuvent me faire rire pour qu'elles soient dans un pays musulman, et je suis même pas sûre que dans des pays musulmans, ils fassent pas les anniversaires à l'école, je sais pas,
Et c'est
mais,
clair. Mais comment
voilà.
tu gères ça, toi, au quotidien avec tes filles? Est-ce que tu discutes avec elles? Est-ce
Ouais.
que tu, comment tu fais pour gérer ça aussi avec ta famille qui veut insister? Comment ça se passe?
C'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué parce que des fois, t'arrives, il y a le gâteau sur la table, il y a tout. Les gamines, comme elles voient ça à l'école, sont très contentes. Donc,
Bien sûr.
j'enlève les bougies. J'enlève les bougies parce que j'ai vu que c'était pas bien les bougies et tout. Et voilà, je dis oui. Et puis après, je verbalise avec elles. Je dis voilà, là, il nous a mis deux fêtes. Ce sont ces deux fêtes-là. Et quand on est toute seule à la maison, je fais rien en fait. Et elles oublient parce qu'elles sont petites, mais c'est vrai que j'appréhende un peu quand elles sont plus grandes. Il y a, c'est surtout l'influence de l'école parce que la famille, bon voilà, c'est une fois comme ça suffit de pas venir le jour de l'anniversaire. Voilà.
Oui,
Mais
c'est ça.
après, c'est pas toujours évitable. Ça le
Oui.
souci.
Ah ben, je
Et
comprends.
ça, franchement, je ne peux pas vous vraiment donner de solution parce que même moi, je galère avec ça. Mais après, voilà, c'est beaucoup, beaucoup parler avec les filles. Puis bah, l'éducation dans le DIN, ça aide beaucoup, hein. Quand des petits, on leur dit, on passe pas en disant ah, c'est pas grave, ils sont petits, surtout faites pas ça, quoi. Enfin, moi, c'est le conseil qu'on m'a donné de ne pas laisser passer parce qu'ils sont petits, parce que ça les habitue finalement.
Et par rapport à ta famille, à toi, que ce soit les anniversaires ou les fêtes familiales qui semblent incontournables telles que Noël, que ce soit aussi le fait d'avoir de l'alcool à table, ça c'est des gros sujets quand même qui peuvent être liés à la mixité. Ma question c'est comment tu as fait toi pour solutionner ces problématiques-là en fait, pour le dire
Bah,
clairement.
après moi j'ai la chance d'être j'ai la chance et la malchance parce que c'est dur d'être loin d'être un petit peu loin quand même de sa famille hein, de sa maman de son papa mais après moi je suis pas à côté et en fait tout simplement moi je ne m'y rends pas à Noël je m'y rends pas à Pâques je m'y rends pas même si au début ils m'invitaient ils ont bien compris qu'après je reviendrai pas ou alors je viens par exemple si c'est les vacances je suis dans le coin ils font leur repas je suis pas allée voir après quand ils ont fini 1 ou 2 jours après. Et puis, ils vont pas sortir, enfin, par respect, ma famille sort pas d'alcool sur la table quand on est là. Bon, mes frères, c'est plus enfin, mon frère, je sais que c'est plus compliqué et tout, mais bon, après, ma mère, mon père, etc., ils vont pas mettre de l'alcool sur la table, quoi. C'est pas. Et par exemple, ma mère, quand on vient, on a une poêle spéciale pour nous, on cuit notre viande dedans. Ma mère, elle va nous acheter de la viande halal, si elle peut, elle y va, ou c'est nous qui apportons
Inch'Allah.
notre viande. Mon père, quand j'y vais, il me fait du poisson, il me fait du saumon. Il m'a même dit qu'apparemment ces bêtes étaient tuées halal et que je pouvais manger sa viande, mais bon, j'attends d'avoir le certificat quand même avant. Parce que bah forcément, comme il a des bêtes, parfois il en emmène à l'abattoir. Il m'a dit, mais si, je te jure, ils font tout halal maintenant, on n'a plus le choix et tout. Donc, je sais pas, on va voir. Voilà, c'est vrai qu'après, au niveau des repas, mes tantes qui sont très, très ouvertes d'esprit du côté de mon papa, qui ont beaucoup voyagé, voilà, qui savent très bien. Bah, quand je vais en vacances, par exemple, chez ma tata en Belgique, elle va tout de suite à la boucherie. Enfin, elle me pose même pas la question, quoi. Et voilà, j'ai de la viande à foison, enfin à foison, j'ai de la bonne viande en plus, et on mange normal, quoi, parce qu'ils nous ont pris de la viande halal direct.
Mais alors, tu penses que c'est dû à l'ouverture d'esprit naturelle de ta famille ou est-ce que c'est dû à quelque chose que toi t'as fait aussi? Je sais pas, moi, des invocations, du dialogue. Parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément des familles ou des belles familles qui sont dans cette ouverture-là, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions à trouver, il y a des ouvertures à trouver ou c'est un peu toi et ta chance?
Alors après, c'est vrai que moi, c'était surtout au niveau du voile. Et après, la viande, en général, quand ma cousine ou je sais pas, quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps va m'inviter à manger, je lui dis juste, ne fais pas de viande. Je lui dis ça parce que nous, on mange pas, vous savez, les trucs qu'on trouve en magasin qui sont halal, mais qui sont pas vraiment halal. Comme ça évite qu'ils se prennent la tête. Ils font un repas sans viande. Finalement, donc voilà, ça passe. Ou alors, bah, on va au kebab ou là, voilà, c'est halal et voilà. C'est ce que je fais en général. Après, j'ai reçu beaucoup d'histoires hein, dans ma famille, notamment avec les grands-parents. J'ai un grand-père qui me parle plus à cause du voile et je ne peux plus rentrer chez lui. Je n'ai pas le droit de rentrer chez lui. Donc, il habite juste à côté de chez ma mère. Je le vois de loin, il me regarde, on se regarde de loin, on ne dit pas bonjour. C'est très spécial. Mais bah, en fait, alhamdoulillah, comme je dis, moi, Allah, il m'a beaucoup facilité dès le départ, déjà avec mes parents. Mon frère, mon grand frère m'a pu parler pendant quand même un petit moment. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir invoqué, mais peut-être, hein, de toute façon, qu'Allah me facilite, je pense que c'est ça. J'ai dû invoquer, hein, je pense. Hein. Et puis bah, finalement, voilà, même si mon grand frère, ça m'embêtait qu'il ne me parle plus, ça a duré longtemps. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui on se parle. Bon voilà, c'est plus comme avant forcément, mais nos enfants ils jouent ensemble, on se voit, on mange ensemble. Faut patienter, faut être presque irréprochable au niveau du comportement. Et si on vous demande quelque chose, tu peux m'apporter ça, est-ce que tu peux m'aider, vous le faites. Vous montrez vraiment que grâce à la religion, vous êtes meilleur. Et de toute façon, c'est toujours le cas.
Bien
Et
sûr.
si vraiment votre foi elle est sincère, vous devenez toujours meilleur. Et ça leur plaît. Ça leur plaît énormément. Et ma grand-mère, qui était très catholique, très raciste aussi, c'était très dur de me voir voilée et tout. Et puis bon, au final, oh bah t'embrasseras Nordine, t'embrasseras Nordine. Elle aime beaucoup Nordine.
Subhanallah.
Ouais, puis finalement, bon, elle voit que chez moi c'est clean. Nous on boit pas, on fait pas la fête, on fait pas machin. C'est très, les gamines elles sont polies. Enfin, c'est tout. Enfin après, ça n'empêche pas, même si on n'est pas musulman, ça n'empêche pas. Mais
Oui, bien
c'est des
sûr, c'est
choses
pas ce que tu dis.
qui pèsent dans la balance. Et puis au final, ils vont dire des choses comme, oh mais elle est mieux comme ça.
Waouh,
Elle est mieux comme ça.
alhamdoulilah.
Non mais vraiment. Et je suis pas la seule convertie à qui c'est arrivé. Je sais que c'est dur, c'est pour ça où les parents ils bloquent, parce que moi, alhamdoulilah, ma mère est très ouverte d'esprit, j'ai vraiment beaucoup de chance d'ailleurs qu'Allah la guide à l'islam, parce qu'elle est
Amin.
très ouverte et ça facilite énormément. Et en plus, elle me défendait et tout dans mon dos, je veux rien entendre. Et disait sur Perrine, je veux rien entendre.
Waouh.
Et mon papa m'a jamais rien dit. Bon, c'est sûr qu'on était plus aussi proches qu'avant, mais voilà, mon papa, je passe le voir, il est très 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 content de voir les filles. Des fois, bah, j'arrive à la ferme, je suis voilée et tout. Il y a des gens qui viennent, ils disent, ah oh, bah, c'est qui? C'est ta fille? Puis il me regarde trop bizarre et il assume en fait. Il assume, bah ouais, c'est ma fille. Et je suis très très surprise.
Est-ce que c'est parce que finalement il a réussi à voir en fait il te voit toi en fait, il voit pas ton hijab ou il voit pas ta religiosité. Et en fait, je vais pas me te poser la question parce que moi j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aussi quand tu es dans une union mixte, c'est qu'en fait tu vois plus enfin c'est pas tu vois pas les couleurs, encore une fois ce truc un peu faussement gauchiste. Ah, moi je ne vois pas les couleurs. On a tous des couleurs hein, on n'est pas naïf, on n'est pas aveugle, mais tu vois au-delà de la personne, au-delà de la culture, au-delà de la couleur, au-delà même
Tout à fait, c'est
de son hijab par rapport à ton papa. Mais je trouve que le parallèle, il est très juste, même dans les couples mixtes.
ça. Ouais. Mais, et puis même, enfin, par rapport pour revenir à ce qu'on disait au début, enfin, certaines personnes, enfin, je vais parler de ça, je sais pas si c'est vraiment le lieu, sinon tu couperas. Il y a des personnes qui veulent se marier avec une personne, par exemple, d'origine, pas de la même origine, parce qu'elles aiment le physique. Elles sont attirées, tu sais, par, enfin, je sais pas, tu vois de quoi je parle. Et ça,
Oui,
c'est une erreur. Si vous êtes musulmane, ne le faites pas, parce que, en fait, même, je pense, même une musulmane, enfin, en vrai, il ne faut vraiment pas s'attarder, ce que je disais sur une nationalité en particulier. Pourquoi? Parce que ça va être au feeling finalement. Et je trouve aussi, comme on disait, la sensibilité, etc. Si vous êtes très froid et que vous fonctionnez comme ça, que ça vous dérange pas, et que vous avez besoin d'une personne qui est comme vous, bah tant mieux. Mais si vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous allez vous mettre, ah bah avec le mec d'1 m 80, bah je parle du
qui a
physique en
telle
général, pas
origine, oui, bien
forcément
sûr.
de l'origine,
Oui, de
mais
l'enveloppe, en fait, quelque part.
voilà, c'est ça. Non, faut s'arrêter là parce que. Ça n'apporte rien 1 m 80 dans une vie. Hein. Enfin
Oui,
voilà.
ouais, je suis là,
J'ai
c'est d'accord.
le souvenir d'une sœur que je salue si jamais elle entend ça, qui est convertie et tout, et elle aime beaucoup la culture turque, etc. On me disait, ouais, mais du coup, toi, tu veux qu'un turc et tout. Mais elle me dit, non, pas forcément, mais quelqu'un de plus grand que moi. Et finalement, elle s'est mariée avec un turc qui est plus petit qu'elle. Mais là, ça se passe bien. Et
Allah coupe la poire
maintenant,
en
ça
deux pour
envoie
elle.
des présents, tu vois. Et elle
Amin.
me dit, bah, tu vois, finalement, t'avais pas tort et tout. Je dis, bah oui, le physique, vraiment, ça se dégrade de toute façon. Même s'il fait un 80, peut-être qu'il les fera toujours après, on ne sait pas, en avoir l'âme, mais le physique, ça se dégrade, hein.
Oui, et puis en fait, c'est surtout que dans les moments difficiles de la vie de couple, vraiment qu'il fasse 1 m 80 ou qu'il ait les yeux bleus, si il n'a pas de la rahma pour toi, ou si il va pas bien se comporter, par exemple, avec ta famille, alors que c'est important pour toi, si la personne ne partage pas d'acte d'adoration avec toi, voire n'en fait pas
Oui.
du tout, bah là, le 1 m 80, ça passe
Clair.
au second, troisième,
Bien
voire
sûr.
quatrième plan. Mais tu vois, ce que j'apprécie dans cette conversation, c'est que j'ai l'impression que finalement, la conclusion de tout ça, c'est de dire nos cultures, nos origines, ça fait partie de nous, mais ce n'est pas tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que
Tout à fait.
c'est un peu ça, en fait, en résumé.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Il y aura, comme on dit, la sensibilité ou les preuves d'amour, parce que certains, ça va être très dans la parole et d'autres très dans les actes. Et ça, c'est universel. C'est
Oui, bien sûr.
pas qu'une culture, hein. Et il y a le contexte social, géopolitique, il y a plein de choses en fait, outre que la culture, parce que finalement, comme par exemple dans notre cas, bah, on vient de la même classe sociale, on vient de la même région aussi, donc ça nous fait quand même pas mal de points communs, même si on a déménagé et tout et qu'on est très bien ici, on a un peu la même mentalité en fait, finalement.
Oui,
Vous voyez,
c'est
la
ça.
mentalité, comme on dit, mindset et tout, bah, c'est important. Parce que tu peux venir du même endroit, du même pays, et puis pas du tout avoir la même mindset, en fait.
Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans que t'es mariée, c'est ça?
Ouais.
Après 7 ans de mariage, est-ce que tu peux vraiment dire que vous vous voyez c'est pas tant au-delà de votre culture, c'est avec votre culture et en même temps, comme on dit, ça fait pas tout ce qu'on est. Ou est-ce qu'il y a encore des moments où, dans certaines discussions, dans certaines difficultés qu'on peut avoir au quotidien, cette différence-là revient? Ou vraiment, au bout d'un certain moment, ça s'estompe, on n'en parle même plus?
Les deux en fait, ça s'estompe et ça revient. Ça s'estompe et ça revient. Par exemple, au niveau de recevoir des personnes à la maison, comme tu sais, les Marocains, ils aiment beaucoup, beaucoup recevoir. Ils sont extrêmement généreux. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et je me force parce que bah, il faut être généreux. Un hein. Pidgin, c'est comme ça. Il faut recevoir, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à suivre parfois avec mon mari qui va, oh, j'invite machin, j'invite. Voilà, après, voilà, c'est la famille, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème et tout, donc on accueille et on patiente. On patiente, on patiente, parce que c'est vrai que pour le coup, chez moi, j'ai une très grande famille qui est très soudée du côté de mon papa et aussi du côté de ma maman. Mais voilà, c'est chacun chez soi, c'est. On se voit, mais c'est que pour un repas. Après, chacun retourne chez lui. Ou voilà, si la personne vient de loin, elle va dormir. Mais c'est très mesuré, c'est très cadré, en fait, par rapport à ce que je peux voir avec Nordine, par exemple. Ou voilà, c'est ton lit, c'est mon lit, vas-y, prends mon lit et tout. Non, non, c'est pas comme ça, en vrai. C'est
Ouais, je comprends.
très mesuré, c'est, ah, tu as ta place là, bon, il y a des draps propres, il y a de quoi dormir et tout. Hein. C'est pas ça, c'est juste que c'est beaucoup plus mesuré. Et c'est vrai que du coup, j'essaye vraiment de m'ouvrir là-dessus tous les jours, encore aujourd'hui, parce que ben, j'aime bien d'être toute seule en fait. Et eux, c'est pas du tout le cas, tu vois. J'aime
OK.
bien, bah, c'est très marqué, hein, voilà, tout le monde vit ensemble, machin. Alors c'est vrai que quand t'as des enfants, c'est très très utile, donc je vais pas mentir.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est vrai que nous, on est plus individualiste.
Oui, tu le ressens, d'accord.
Ouais,
Et dans
et ça, c'est
votre
vrai que.
quotidien, des fois, tu peux le ressentir.
Ouais.
Ok.
Bon, quotidien, pas quotidien. Quotidien, c'est pas vraiment quotidien parce que c'est pas non plus tout le temps, il abuse pas non plus.
Oui, bien sûr.
Mais après, ça, c'est plutôt de mon côté à moi où je dois faire des efforts et continuer d'être serviable et tout, sans voilà, me refermer et tout. Mais j'ai besoin de beaucoup de temps après toute seule pour souffler et pour me dire ah, oh, ma maison, machin. Et je sais que chez nous, c'est comme ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Est-ce que, bon, Nourdine n'est pas là, mais est-ce que tu sais si lui, du coup, il a dû aussi, il voit aussi dans le quotidien des choses comme ça, qui n'est pas pour le coup l'exemple que tu donnes, mais peut-être un autre, où lui, il se dit, ah ouais, là, je sens qu'il y a des moments où je vois bien que on a une culture qui est différente et je vois bien que parfois ça peut nous, ça peut être difficile pour moi, ou ou en tout cas, je sens que ça me revient, en fait. Il t'en parle
Ben,
ou pas?
je pense que c'est plutôt. Ben, là, j'ai pas d'idée qui me vienne comme ça, mais ça, du coup, ouais, le fait d'inviter et tout, de faire beaucoup à manger. Moi, c'est pas comme ça chez nous. On fait à manger, c'est très mesuré en fait. C'est pas, on fait
C'est pas la
énormément.
profusion.
Voilà, c'est ça. On fait petit, enfin petit. Voilà, pour que tout le monde mange et tout normalement, mais c'est très mesuré. Ben, de toute façon, c'est pas son homme. Et chez nous, voilà. Il y a les assiettes, chacun son assiette et tout. On peut se resservir une deuxième fois. C'est plutôt des codes autour de ça, de quand on reçoit, comment on appelle ça, l'hostilité? Non, non, c'est pas ça.
L'hospitalité.
L'hospitalité, pardon.
C'est
Et
pas grave.
du coup, c'est ouais, c'est ça, parce que lui, mais après, attention, hein, il invite, mais quand il invite, il m'aide. C'est-à-dire qu'il sait que moi, je suis pas très dans le truc. Il va faire le thé, il me dit on va faire ça comme ça, il va mettre beaucoup de choses sur la table, il va débarrasser. Voilà, c'est il prend aussi le truc de se dire bah à mon avis elle aime pas, enfin il le sait hein, de toute façon voilà, on a déjà parlé.
Bien
Et du
sûr.
coup bah je lui allège le truc parce que moi j'aime bien quand même recevoir et du coup bah ça passe. C'est-à-dire, de mon
Ouais.
côté, ça passe, de son côté, ça passe. En fait, voilà, si vous voulez qu'une personne, elle accepte quelque chose, bah, aidez-la aussi à ce que ce soit plus facile pour elle d'accepter.
Et puis aider là aussi à comprendre, soit à comprendre les codes, soit aider là à tendre vers ce code-là en fait. Parce que moi, peut-être que je le vois aussi dans mon mariage où il y a des choses, ben on a quand même des cultures extrêmement différentes. Et encore une fois, la culture sénégalaise peul, elle est très forte, elle est très affirmée. Et du coup, il y a des choses sur lesquelles ben, mon mari, il n'a pas grandi dedans en fait. Donc c'est à nous, quelque part, enfin, c'est à celui, je pense, qui a la culture la plus imposante en termes de nombre de codes, en termes de. Parce que nous, il y a beaucoup de. Comment dire en termes de codes et de. Comment on dit d'étiquettes, presque, en fait. C'est vraiment. C'est très codifié, ça se passe comme ça, le respect aux parents, ça passe par ça, 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 ça. Quand on accueille, comme tu l'as très bien dit, Nourdine, il faut mettre plein de choses sur la table, etc. Donc, c'est des choses. Il faut un peu combler. Ou inviter l'époux à faire ce chemin-là, ou sinon ben, on comble le chemin qu'il peut pas faire parce que pour lui c'est énorme en fait. Faut juste réaliser ça en fait. Pour la personne qui est pas née dans cette culture-là, c'est
Il y a des
énorme.
choses codifiées. On parlait avant de dire, écoute, ça, il faut que tu le fasses comme ça. Et en général, si c'est une façon de dire bonjour, une façon de servir, je connais personne qui va dire, même moi que j'aime pas, j'aime recevoir, mais de façon différente, on va dire. Ça me fait toujours quand même plaisir de faire telle ou telle chose, de voilà. Et puis vraiment, si en général, les gens sont pas méchants. Enfin, après, ça
Non,
arrive.
bien sûr.
Et si tu vois que ton mari qui est d'origine latine ou française fait pas bien quelque chose, en général ils vont pas oh là là tomber dans les pommes et puis faire un gros drama et tout, ils vont rigoler, ils vont dire c'est pas grave. Moi je me souviens quand je suis partie au Maroc, vous voyez le Sedlou là, ils appellent ça comme ça là, tu vois de quoi je parle, c'est une
Pas
pâte
du tout.
avec des amandes et tout
D'accord.
en miettes. Alors, je ne serais pas te dire la recette parce que je ne la connais pas, mais c'est très bon. Et on m'a dit, vas-y, mange, mange. Je ne sais absolument pas comment manger une poudre, en fait. Quand tu manges à la cuillère. Et moi, je l'ai mise dans mon pain et je rigolais parce que je disais, mais pourquoi
Ouais,
elle
parce qu'en fait, t'en as jamais vu, en fait, c'est
mange
exactement
comme ça?
ça,
Oui, voilà,
ouais.
c'est ça. Du coup, ils étaient un peu amusés. Bon, ils ne se moquaient pas méchamment, hein,
Oui,
mais
bien
bon,
sûr,
je dis,
c'était
ben voilà, c'est
l'étonnement, en
normal,
fait.
on n'a jamais vu. C'est comme moi, une fois, je fais une raclette, je vois ma belle-mère, elle met de la harissa sur sa pomme de terre. Je suis choquée, tu vois. Je dis, bah, ça va pas, t'es quoi? Voilà, c'est des petits trucs plutôt amusants. C'est plutôt les côtés rigolos, quoi, avec la nourriture,
Et
ou
puis quelque
bien.
part, je pense qu'il faut aussi, tu vois, tu as soulevé un point intéressant, c'est-à-dire que, tu vois, on a commencé en se disant, quand la personne ne connaît pas les codes, faut l'aider à rentrer dans ces codes-là. Mais je pense que faut aussi expliquer à ta famille ou à tes amis, s'ils ont les mêmes codes que toi, qu'on accueille aussi quelqu'un qui est pas dans ces codes-là. Et donc, eux aussi doivent faire un pas. C'est-à-dire que c'est pas que à l'autre aussi de faire un pas. Moi, je l'ai vraiment beaucoup senti comme ça. Allez, je vais me permettre une petite anecdote personnelle. Moi, mon mari, quand il est venu voir ma famille, et moi-même, du coup, par la même occasion, la première fois, il est venu seul. Il était un peu loin. Et il est venu seul. Et moi, j'ai une amie qui était hyper choquée. Non, mais comment ça, il vient tout seul? Non, mais attends. Non, elle m'a dit, il vient avec qui? Genre, c'est obligatoire qu'il vienne avec quelqu'un. Et moi, je dis, bah, il vient tout seul. Enfin, voilà, il vient seul, quoi. Il vient d'un peu loin. Non, mais attends, il va pas venir tout seul. Parce que pour nous, en fait, dans nos cultures, encore très codifiées, quand tu viens, tu montres que, bah, voilà, justement, t'es pas quelqu'un du dehors, t'as une famille, t'es accompagné, t'es quelqu'un de fiable. Donc, quand on vient demander la main ou rendre visite à la famille pour la première fois, tu viens avec du monde pour montrer, justement, que t'es un quelqu'un. Parce que dans notre culture, être un quelqu'un, c'est être une personne qui est
Avec les
entourée.
gens. D'accord.
Exactement. Si tu es
Très
toujours tout
intéressant.
seul, on se dit, c'est bizarre ça. Ouais, vraiment. Et au final, lui, il est venu seul. Donc, moi, j'ai compris ça, qu'il vienne tout seul, parce qu'on en avait discuté, je connaissais son parcours, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'était. Je comprenais ça, en fait. Mais pour mes amis, au début, c'était un peu en mode, non, mais comment ça, il vient tout seul, c'est pas normal. Mais en fait, il faut aussi faire un pas vers lui, vers moi aussi, qui ai choisi aussi cette personne-là, en se disant, bon, la personne, elle n'est pas sénégalaise, elle n'est pas peul. Faut regarder maintenant le principal. Est-ce qu'il est sérieux? C'est quoi son dîn? C'est quoi ses intentions envers Madina? C'est ça, faut se
Oui,
retrouver
c'est ça.
au
Après, si
milieu de tout ça,
toi,
en fait.
derrière, tu avais l'explication. Puis c'est vrai que nous, en tant que convertis, des fois, on est seul, hein. On n'a pas toute la famille. Enfin, par
Merci
exemple,
de le
l'Aïd.
rappeler.
Non, mais c'est vrai, par exemple, l'Aïd, il y a des personnes qui font l'Aïd toutes seules. Et ça peut choquer et tout. Ben oui, mais nous, notre famille n'est pas. Et puis, des fois, on peut être en guerre avec notre famille à cause de la conversion. Et moi, c'est pas mon cas. Alhamdoulilah, j'ai mes parents, j'ai mes frères, j'ai mes tantes. Alhamdoulilah, ils viennent me rendre visite de
Alhamdoulilah.
temps en temps. Je vais pas me plaindre, mais je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent à la rue. Des personnes vraiment, voilà, bon, pour le cas, c'est pour le coup, ça arrive, hein, que des personnes qui sont des sœurs, souvent, qui sont à la rue, qui sont très jeunes,
Ah,
ou
bien sûr.
bon, après, quand on est plus vieux, ça va, on peut trouver un truc rapidement, mais voilà, on entend combien des histoires comme ça où, ah, il faut aider une sœur à se faire mettre à la rue parce que ses parents acceptent pas sa conversion et tout. C'est violent,
Absolument.
hein. Et par exemple, vous allez faire l'Aïd, des personnes qui sont nées musulmanes, vous allez avoir les deux côtés, côté de la maman, du côté du papa. Bah, nous, du côté de la maman, des fois ma mère elle vient, c'est super. Et j'ai de la chance, vraiment. Donc ma maman
Alhamdulillah.
elle vient et tout, elle vient le fêter avec nous et tout, enfin elle est là, quoi. Et sinon, je dis que bah sinon je suis seule, quoi. J'ai qui à part mes enfants, mon mari. Après, voilà, c'est pas. Moi je le vis pas mal du tout, hein. Mais voilà, moi ça me choque pas que ton mari soit venu seul, ou même si j'imagine que derrière il y avait des raisons. C'est pas en mode il est
Ah
bizarre
oui,
ou je sais
clairement.
pas quoi.
Oui, et puis c'était pas genre il cachait une double vie et donc du coup il pouvait pas venir. C'était vraiment, bah, c'était son histoire à lui en fait. Et donc et c'est vrai que là je me suis rendu compte que en fait, en tant que musulman avec une double culture, parfois on met trop l'emphase sur le culturel, vraiment. C'est-à-dire que on oublie des choses qui sont essentiel et à titre personnel, ce mariage a vraiment été un beau rappel et je l'ai vraiment senti comme ça. Alors là, mais j'ai vraiment senti quand elle me disait, Madina, faut que tu reconfigures certaines choses. Et pourtant, j'étais pas la plus énervée quoi, en termes de culture et tout. Je pensais pas avoir ce rapport-là à ma culture d'origine. Et en fait, force est de constater que quand là, il m'a apporté un époux qui n'était pas de la même culture que moi, ça a fait remonter justement tout ce que j'aime dans ma culture, tout ce à quoi je suis attachée à ma culture. Et encore une fois, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir une attache à sa culture, mais quand ça te fait prendre des mauvaises décisions, quand ça te fait avoir un mauvais comportement envers un frère filet, il faut se poser des questions.
Ouais, c'est ça. Et puis bon, faut aussi se rappeler d'une chose qui est très 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 importante. Je dis pas que c'est ton cas, hein. Mais en islam, on n'a pas le droit d'être nationaliste, d'être tribaliste, d'être fier de ses ancêtres. Donc
Exactement.
il faut faire aussi attention. Il faut le rappeler aussi. Et même en tant que converti, hein, évidemment. Voilà. Et on est tous à la même échelle. Il faut pas se croire meilleur parce qu'on vient de tel ou tel pays ou région. Et je pense qu'il faut le rappeler aussi.
C'est extrêmement
C'est
important.
important.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, justement, ça allait être bah, ma dernière question, c'est comment tu fais dans un couple mixte, même si encore une fois, plus on parle et plus on se dit, mais en fait, tout le monde un peu est un couple mixte parce qu'on arrive tous avec des bagages différents. Mais je vais garder le terme mixte à défaut d'autre chose. Comment tu fais pour mettre le culturel avant le culturel? Est-ce que tu trouves que c'est difficile ou pas? Parce que franchement, je vais te dire un truc. Je trouve aujourd'hui qu'en France, tu peux avoir des gens qui sont de la même origine et en fait, ils mettent pas forcément le culturel avant le culturel. C'est-à-dire que tu pourrais te dire que c'est plus simple pour ces gens-là parce que tout est clair dans leur tête. Et en fait, parfois, justement, comme tu as deux fois la culture, tu as deux fois cette pression sociale,
Ouais,
parfois, hein,
ouais,
et je dis pas
ouais.
que c'est tout le temps le cas, mais parfois, tu as ce truc de justement, comme on s'est marié parfois autour d'autre chose que la foi,
Ouais.
Ben, on s'occupe moins de la foi. Alors que quand tu es dans une union mixte, je dis pas que c'est mieux, hein, attention, mais
Non,
parfois,
ça va pas forcément, ouais.
ça peut pas forcément déjà, et puis parfois tu peux te perdre justement dans ces différences-là en se disant mais ça m'énerve, on est trop différents là-dessus, du coup tu perds de vue le culturel. Mais ma question c'est pas pour dire que c'est mieux, mais juste pour savoir comment ça fonctionne dans ton couple en tout cas. Comment tu fais pour mettre le culturel avant toute chose? C'est pas que avant le culturel, c'est avant toute chose, quelque part.
Mais c'est vrai que comme moi j'ai pas la même culture, quand par exemple on va avoir un événement, par exemple sa famille va dire ah ben tu dois faire telle ou telle chose, tel ou tel acte, machin, moi je vais tout, c'est pas que j'ai tout de suite me méfier, mais je vais quand même aller vérifier si fid din, c'est sunna, c'est autorisé, etc. Et puis après on en parle, et puis si on voit que voilà, bah il faut le faire, bah on le fait. S'il faut pas le faire, Moi, c'est pas quelque. Enfin, voilà. Si c'est interdit, on le fait pas. Et
Mmh.
puis, c'est tout, en fait. On fait entre nous. Après, on se dit, ça, on le fait, ça, on le fait pas. Par exemple.
Ok, vous en discutez.
Mais
D'accord.
après, au niveau de culturel, c'est vrai que c'est un peu dur. Parce que c'est vrai que mes filles, j'aimerais quand même qu'elles aient la culture du Maroc et tout, c'est normal. Mais il faut que ça passe sans musique, par exemple. Ça, c'est un peu plus dur parce que, mine de rien, la culture, ça passe aussi énormément par la musique. Hein.
Ouais,
Et
beaucoup
du
de
coup,
culture, hein, si ce n'est toutes.
bah,
Ouais.
ouais. Et du coup, bah, on va essayer de passer par les vêtements, par la nourriture, une certaine forme de coiffage, de maquillage, enfin, pas de maquillage, mais voilà.
Des mises en beauté, on va dire.
Oui, voilà, c'est ça, le henné, le parfum, le musc, voilà, c'est quand même des choses que moi je fais attention. Par exemple, j'ai un petit vernis avec du henné. Elles n'ont pas le droit de mettre du vernis, on va dire conventionnel, mais ça, elles ont le droit de le mettre. Parce que bah, c'est du henné, et bon, après, c'est Sunna aussi, pour
Bien
le
sûr,
coup.
bien
Mais
sûr.
c'est vrai que quand même, j'essaie de mettre une part de. Et puis les livres. Les livres, c'est aussi important. Donc après c'est un peu embêtant parce que ça fait beaucoup de comptes et dans les comptes il y a beaucoup de chirk. Donc là par exemple je suis allée à la bibliothèque, je dis, oh tiens compte marocain, oh, bah, c'est que du
C'est vrai?
chirk.
Ah, c'est dingue. Bah, c'est
Ouais,
bien que
mais
tu le précises.
c'est pas toujours le cas. Après par exemple j'ai ma mère qui avait acheté des petits livres, je sais plus, ça parlait d'une petite fille au Maroc dans le désert qui voulait aller à l'école et puis qui voilà, ça raconte un petit peu son chemin. Une autre pareil, donc ça c'était en plus c'était en amazigh et tout, donc c'était il y avait des petits mots en amazigh, c'était sympa.
Waouh.
Ouais, c'était voilà, on essaie de faire des petits trucs comme ça. Puis c'est vrai que moi quand je retrouve des livres que je lisais enfant où il n'y a pas de Noël, où il n'y a pas de trucs, bah je leur remets aussi parce que bah c'est des livres que j'aime, que je porte dans mon cœur aussi. C'est important pour moi aussi de leur transmettre parce qu'on a été élevé avec, quoi, en fait.
Bien sûr. Bah, c'est hyper beau. Et j'ai vraiment une dernière question. Est-ce que tu as des conseils? T'en as déjà donné beaucoup, mais est-ce que tu as des conseils du coup pour faire perdurer une union mixte dans le temps? Est-ce qu'il y a vraiment des choses où tu te dis, franchement, tu as beaucoup parlé de la patience, du fait de verbaliser, de faire des efforts. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses?
Mais après ça je pense que c'est pour tout le monde en fait, même pas de toute
Ouais,
façon c'est des
exactement.
conseils un peu qu'on entend bateau, qu'on entend partout, la patience, faut faire des sacrifices, alors attention pas des gros sacrifices non plus, voilà, on sait de quoi on parle, mais ça c'est tous les couples et finalement bah, c'est toujours de l'amour, faire des petites attentions même si c'est pas grand chose, enfin, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent et tout, c'est des petits trucs, genre, ah, je t'ai fait tes gâteaux préférés, ah, bah, je t'ai acheté ça au magasin. Enfin, je sais que moi, c'est hyper important. Enfin, ça compte beaucoup, même si moi, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. Il a de la chance. Du coup, ça passe beaucoup par bah, des petits gâteaux. À chaque fois qu'il passe au magasin, il me prend ce que j'aime et il sait ce que j'aime. Ça, c'est des trucs vraiment, s'il arrêtait de les faire. Peut-être que je ne me rendrais pas compte tout de suite, mais je me disais, ah, tiens, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça. Et comme, enfin voilà, c'est des petites attentions, et ça nourrit en fait l'amour. Et voilà, et surtout pendant les grosses épreuves qu'Allah nous envoie, ben, il faut pas être en colère sur l'autre personne et tout, il faut se prendre dans les bras, et puis il faut se dire qu'on s'aime, et alhamdoulilah, et que Allah va nous faciliter. Et franchement, ça aide beaucoup.
Ah bah tu vois, je suis obligée de citer deux hadiths du prophète sallam. Alors je les connais pas par cœur, mais je vais commencer par ce que tu disais à la fin, de pas se mettre en colère. Allah, il l'a dit à une personne qui est venue le voir. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais plus, pour améliorer ma foi, ou pour je sais plus quelle était la question de base, mais il lui a dit trois fois, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Et là, le deuxième hadith, c'est le prophète sallam qui dit que c'est important qu'entre musulmans on se fasse des cadeaux. Faut qu'on se fasse des cadeaux. Et comme tu dis, on n'a pas besoin de s'offrir des cadeaux à de forte valeur pécuniaire, on va dire. Mais le fait d'avoir ces attentions-là, c'est sunna. Le fait de ne pas se mettre en colère, c'est sunna. Donc en fait, on a parlé de mixité tout au long de cette discussion, mais on espère en tout cas avoir rappelé à tout le monde et à nous en premier que on parle surtout de mariage filaire, de mariages qui sont là pour obtenir la satisfaction d'Allah, et que finalement, et c'est un peu ce que tu as dit en répondant à la question, c'est que tous les mariages devraient se ressembler finalement. que tu te maries avec une personne qui est d'une double culture ou pas, qu'une personne qui a un handicap ou pas, une personne plus âgée, une personne plus jeune, c'est pas ça le plus important. Vraiment, c'est pas ça. C'est tous nos mariages devraient se ressembler parce que Allah nous a donné tous les ingrédients pour faire en sorte qu'un mariage marche, quelle que soit finalement sa spécificité.
Mais de toute façon, je pense qu'il faut se rassurer sur un point, c'est que si c'était notre destin, c'était notre destin. Et que, voilà, moi, mon destin, c'était d'être mariée avec Nordine. Donc forcément, ça, en fait, il faut se dire ça aussi. C'est mon destin. Après, comme je disais, il ne faut pas se mettre en colère. C'est pas toujours facile, hein. C'est déjà arrivé qu'on se mette en colère, qu'on se
Bien sûr,
dispute.
bien sûr.
Mais par exemple, être rancunier, ce genre de choses, ça n'apporte rien. Et en fait, il faut verbaliser. Parce que c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à tout garder pour moi. Et puis un jour, j'explose. Et puis voilà. Et que lui, non, il va me le dire tout de suite. Et puis maintenant, enfin surtout avec les épreuves qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps, on se dit, ok, on se prend pas la tête sa vie, on n'a pas l'énergie pour ça. Et ça passe en fait, parce que des fois, même avec le temps, on se rend compte qu'il y a des choses, c'est bon, c'est pas grave, ça prend pas. On sait déjà ce qu'on va dire l'un et
Oui, bien
l'autre.
sûr.
Et
Oui, bien
puis c'est
sûr.
tout. Et puis voilà, on passe à autre chose. C'est pas très grave en fait. C'est pas
Comme
très
tu
grave.
dis.
Et aussi, il y a un truc que je trouve très important dans la vie de couple et qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est il faut pas vouloir, parce que souvent on dit, ouais, la femme parfaite, la femme parfaite. Mais nous, c'est pareil. Il faut pas vouloir l'homme parfait. Il va pas être parfait en tout point. Il va pas vous faire tout le ménage, tout le jardin et puis vous ramener de l'argent à la maison, hein. Il y a des trucs où il y aura des manquements. Et vous, c'est pareil, en fait. Il y aura des manquements sur certains trucs. Et faut avoir, ouais, de la rahma, finalement, avec son mari, de se dire, il est pas parfait, mais moi non plus, je suis pas parfaite.
Oui, en fait,
Donc, il
ce
faut
qui est
pas
bien,
lui
c'est que la
demander la
rahma pour son
perfection.
époux, ça permet d'avoir de
Ouais.
la rahma pour soi-même, en fait, de dire, bon, en
Voilà,
fait,
c'est
moi
ça.
aussi, j'ai le droit de pas être parfaite, en fait. Et ça,
Bah
c'est
oui.
important de le dire pour
Et
les
lui aussi,
femmes.
il a le droit. Et
Ouais,
c'est
t'as vu?
très
Et
important,
les
ça.
deux, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ouais, bah oui. Non, non, mais vraiment, ça aide beaucoup parce que on dit, ah, mais ça, il l'a pas fait, je lui ai dit pourtant. Et lui, c'est pareil, ah, mais ça, tu l'as pas fait, je te l'ai dit pourtant. Donc, au lieu de lui prendre la tête, au lieu que l'homme lui prenne la tête à la femme, faut se dire, moi aussi, ça m'arrive d'oublier. Moi aussi, ça m'arrive de pas vouloir, d'avoir la flemme ou je sais pas quoi. Ça arrive. Et en fait, nous, on a compris ça, ça met du temps, hein. Mais en fait, hop, je passe outre. Ou, par exemple, j'ai fait une bêtise, j'ai cassé un truc, j'ai pas fait attention. Bah, c'est pas grave, en fait, c'est rien, ça, y a pire, en fait, dans la vie, et puis c'est tout. Déjà, t'es pas bien parce que t'as cassé quelque chose, j'ai pas rajouté en couche en te prenant la tête, en fait.
Sachant que l'autre, quelque part, a fait quelque chose avant ou fera quelque chose avant. Donc, quelque part, c'est notre humanité qui s'exprime, en fait. C'est nos imperfections qui s'expriment. Et Allah nous a créé imparfait, en fait. Donc, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Perrine. Franchement, Barakallahou fik, c'était hyper intéressant, profond. Et je trouve ça vraiment... Je suis ravie que ce podcast il existe parce que, alhamdoulilah, ça permet de voir à quel point la Oumma, elle est vaste, en fait. Vraiment, je pense que peu de gens auront eu la chance d'entendre parler une femme qui a grandi dans le reste de la France avec une famille d'agriculteurs et qui pourtant a retrouvé son chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc merci beaucoup de ton témoignage, merci de ton temps. Et puis
Ben, merci à toi, Barakallahu fik, à toi aussi, c'était super
merci,
enrichissant.
barakallah. Alhamdulillah.
Et ben, qu'Allah vous préserve, toi et ton mari.
Amin.
Inch'Allah.
Amin, amin. Ben, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'ensemble des couples mariés. Et puis, comme d'hab, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le mariage à tous mes frères et sœurs filets. Je pense très, 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 très fort à vous dans mes doigts, du fond du cœur. À bientôt, Perrine.
À bientôt, Inch'Allah.
Salam alaikum
Wa rahmatullahi.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah. Et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, Charles. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.